Se pensi che gli anni non andano a finire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Les Passages. Une émission de rencontre à travers des lectures, des passages de livres, pour que chacun choisisse son chemin entre l'infantile et le parental. Nous sommes dans le studio Gisèle Halimi, accueilli par la radio web Esprit Occitanie, avec à la technique Florent. Pour les passages, la fiction rejoint souvent la réalité. Le parcours initiatique d'Uxuralit a révélé les épreuves à traverser pour aller à la rencontre de son altérité intérieure. Ce parcours entre en résonance avec celui de Nastasia Martin, qui raconte son incroyable histoire dans « Croire aux fauves » aux éditions Verticales en 2019. Anthropologue, diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales, Nastasia Martin est spécialiste des populations arctiques. Elle est aussi l'auteur d'un essai tiré de sa thèse, dirigé par Philippe Descola, est paru aux éditions La Découverte en 2016. Son titre, « Les âmes sauvages, face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska ». Ce titre en dit long sur la soi-disante sagesse de nos croyances occidentales d'hommes modernes. « Croire aux fauves » est le récit de sa rencontre avec l'ours le 25 août 2015 dans les montagnes du Kamchatka. Rencontre qui fait imploser les frontières. Frontière entre monde animal et monde humain, où le temps du mythe rejoint la réalité et le spirituel rejoint l'incarné. Les failles qui s'ouvrent dans les corps et dans les têtes sont des passages qui nous transforment. Ce sont les chants des Indiens d'Amérique par le groupe Sacred Spirit qui accompagneront une telle rencontre pour les trois prochaines émissions. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ça n'est manifestement pas une mort. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage à tâtons. Je m'en mitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours. Reviens ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve. Je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever ou pour que je l'achève, moi. Ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà je sais, je sens que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude et que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes, lui sans moi, moi sans lui. Arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre. Arriver à vivre avec ce que l'autre y a déposé. le chant Gichi Manido est un avertissement aux jeunes gens. Kliuchi, c'est la nuit, le fond concret de la nuit. Kliuchi, le village clé, le centre d'entraînement, la base secrète de l'armée russe dans la région du Kamtchatka. Je ne suis pas censé savoir. Ironie du sort. Le dispensaire se trouve au village clé. C'est là que l'hélicoptère qui me transporte a atterri, derrière les barbelés et les grillages, derrière les miradors, à l'intérieur de la gueule du loup. Moi qui riais intérieurement de savoir toutes ces choses interdites sur ce lieu secret, me retrouve au cœur même du dispositif de soins pour les soldats et les blessés de la presque guerre qui accourt ici. C'est une vieille femme qui ferme mes plaies. Avec une infinie précaution, je la vois manier le fil et l'aiguille. J'ai passé le stade de la douleur. Je ne sens plus rien, mais je suis toujours consciente. Je n'en perds pas une goutte. Je suis lucide au-delà de mon humanité détaché de mon corps tout en l'habitant encore. « Vziobudet, kronko !» me dit-elle. « Tout ira bien. » Sa voix, ses mains, c'est tout. Je regarde mes longs cheveux blonds et rouges tomber à mes pieds par touffes à mesure qu'elle les coupe pour recoudre les plaies du crâne qui, par miracle, n'a pas fendu. Je lutte pour discerner une lumière. Mais il y a peu à faire, le fond de la nuit est opaque, douloureux, infini. On n'en sort pas comme ça. Au milieu du jour suivant, on vient me chercher. L'hélicoptère m'attend. On va me transférer à Petropavlovsk. Le voyage se passe dans une demi-conscience. Je me souviens que j'ai froid, que j'ai du mal à respirer avec le sang qui me coule dans la gorge. À l'arrivée, les médecins me forcent à m'allonger sur un brancard, sur le dos. Je leur dis que je ne peux pas, que je n'arrive pas à respirer comme ça. Mais ils s'entêtent, ils se mettent à plusieurs pour me tenir. On dirait que tout le service est là. J'étouffe. Ça crie, ça hurle. Je sens une piqûre dans mon bras, immobilisé. Puis d'un coup, tout s'arrête. Les lumières valsent. Je perds connaissance pour la première fois depuis l'ours. Plus rien. Plus rien du tout. Le vide. Le blanc. Pas de rêve. Lorsque je me réveille, je suis entièrement nu, seul, attaché au lit. Des lanières m'enserrent les poignets et les chevilles. J'examine la situation. Je me trouve dans une vaste salle blanche et décrépite. Des lits vides sont alignés auprès du mien. Quelques voix résonnent au loin. Un tuyau me passe dans le nez, la gorge. Il me faut un long moment pour comprendre pourquoi je respire si bizarrement. Arrive un médecin. Oh, c'est le médecin-chef, et ça se voit. C'est lui qui est aux manettes des opérations présentes et à venir, de ma camisole de force et de tout le reste. Oh, se le mettre dans la poche, je me dis d'emblée. Il me complimente. Personne ne sait comment c'est possible que tu sois vivante, mais tu l'es. Alors bravo, molodiet. Tu es une femme très forte, ajoute-t-il. Je lui réponds que je voudrais juste qu'on m'enlève les attaches. « Ça, non, ce n'est pas possible, tu restes comme ça, c'est pour te protéger de toi-même. » Ah bon ? Les jours qui suivent sont un calvaire. C'est une obsession, je ne pense plus qu'à ça. Comment dénouer les liens qui m'entravent ? mais c'est un tuyau qui transfère dans mon estomac une bouillie marron et noire. Il faut nourrir. J'entends crier dans les couloirs en fin de journée. « Tu l'as nourri ?» Alors je revois mon vieil ami Ilo, qui du fond de sa yourte appelle son neveu Nikita. « T'as nourri les chiens ? Va nourrir les chiens !» Depuis, je ne peux plus entendre prononcer ce mot sans qu'un spasme me remonte du fond du ventre. En atteignant brutalement mon estomac, la bouillie me fait hurler de douleur. Les larmes coulent le long de mes joues. Je n'ai jamais été aussi impuissante, à la merci des hommes, dénudée, attachée, gavée. Je suis à la frontière de l'humanité, à la lisière, je crois, de ce qu'on peut supporter. C'est l'entrée dans l'hiver. Torchéné, Nahana, chantent les Indiens. C'est là, après l'épisode de la bouillie, que je décide de baisser les armes. Ou que je rends les armes. Parce que je n'ai pas le choix. Je m'applique à être sage, sage comme une image. À ne pas protester, à ne rien demander et à ne rien attendre. À supporter la douleur, les tuyaux et le reste. jusqu'à ce que ça passe. Ou plutôt, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ravi de ma bonne conduite, les médecins qui veillent sur la rescapée comme l'huile sur le feu viennent me rendre visite. On discute, moi allongé sur le lit, tirant mon maigre drap au plus haut pour cacher ma poitrine, eux à mon chevet ou au pied du lit. Manifestement, je vais mieux. Bien entendu, ils refusent encore de me rendre mes effets, mon téléphone surtout. C'est interdit dans ce service, affirme-t-il. Je leur explique que je m'ennuie sec. Le lendemain, en fin de journée, le médecin-chef arrive. Il pousse une petite télévision sur roulette. « Voilà, il dit, comme ça tu pourras regarder des choses plus intéressantes. » Le film qui me tombe dessus dans le service de réanimation délabré de Petropavlovsk parle d'une jeune femme, Nastenka. Elle cherche son amoureux dans la forêt et ne le trouve pas. Elle appelle. Mais comment peut-elle savoir que celui qu'elle cherche, victime de quelque malédiction, s'est transformé en ours? Quand finalement elle le rencontre, elle ne le reconnaît pas. Il meurt de tristesse de ne pouvoir se rendre visible à elle, visible de l'intérieur puisque extérieurement il est ours. J'entre dans un état de stupeur, face à ce petit chaperon rouge portant mon nom, poursuivi par cet ours amoureux qui ne peut plus lui dire, qui poursuit elle aussi cet ours sans le savoir, sans savoir que celui qu'elle aime a déjà changé de peau. Ils sont condamnés à vivre dans des mondes différents. Ils ne se comprennent plus. Leur âme, ou ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, sont désormais enfermés dans une peau altère, une peau qui ne répond plus aux mêmes expressions d'existence. Je pense à mon histoire, à mon nom Even, Matuka, qui signifie « ours femelle », au baiser de l'ours sur mon visage, à ses dents qui se ferment sur ma face, à ma mâchoire qui craque, à mon crâne qui craque, au noir qu'il fait dans sa bouche, à sa chaleur moite et à son haleine chargée, à l'emprise de ses dents qui se relâchent, à mon ours qui, brusquement, inexplicablement, change d'avis. Ses dents ne seront pas les instruments de ma mort. Il ne m'avalera pas. Une larme coule sur ma joue. Mes yeux lavés continuent de fixer l'écran qui ne fait plus à présent que refléter ma propre vie. Je suis face au miroir. Il n'y a plus d'absurdité, plus de bizarrerie, plus de coïncidence fortuite. Il n'y a que des résonances. Tawasne est le chant de l'élévation. C'est alors que j'entends mon voisin de chambre délirer et je suis transporté à Dvayan, sous la yourte. Je revois le vieux Vassia au petit matin, assis sur une peau de renne, les yeux bi-clos. Probablement retenu dans cet entre-deux qui précède le réveil, là où les rêves gardent encore toute leur emprise sur nos corps. Tout en se balançant doucement dans la lumière de l'aube qui perce par le toit, il murmure des mots en boucle sur le village, l'alcool, les bagarres, la forêt qui s'éloigne et avec elle la langue maternelle, la chasse qui manque et le camp du kolkhoz en échange. Je me rappelle avoir été frappé par la profondeur du choc, de la collision entre l'hémicycle de la yourte, les flammes du feu qui racontent les choses de l'invisible, que lui, Vassia, sait traduire le soir en quelques mots prononcés tout doucement. La modernité soviétique qui s'est infiltrée jusque dans les rêves des humains les plus éloignés, les plus différents, les moins préparés. Une histoire tourne dans les abysses de Vassia. Quelle bribe de souvenirs, quel détail de rencontres, quel fragment d'événements. Je ne sais pas si mon colocataire du service de réanimation est Even, Koryak, Itelmen ou Russe. Je sais, en revanche, qu'il ressasse la même pesanteur passée que mon vieil ami Vassia et son chant chamanique pour guérir l'âme. Je me revois peu de temps après mon arrivée au Kamtchatka, il y a 4 ans. La fièvre qui me tient cloué sur la couche de peau dans la yourte d'Andrei. Andrei et ses tisanes. « Le lieu entre en toi, tu seras plus forte après », avait-il dit. J'avais passé 2 semaines, peut-être 3, dans le huis clos de la yourte avec lui, à parler des esprits des animaux, de ceux qui nous choisissent avant même qu'on les rencontre. Puis j'avais guéri et j'étais vite reparti. Lui voulait me garder pour m'apprendre encore. Mais je ne pensais qu'à la forêt, la vraie, pas celle des histoires. J'aimais beaucoup Andrei, mais je détestais le village. Je ne lui laissais pas le choix. Je partais chez ceux de son peuple, les Évennes, ceux qui avaient choisi de garder leur vie loin des villages, loin du tourisme, loin de l'État. Aller chez Daria, qui est comme une mère. Andrei était coincé ici. Et même s'il était tout aussi indigène que Daria et sa famille, son atelier de sculpture était devenu pour moi, au fil du temps, plus qu'un sujet de recherche. C'était un sas de décompression entre mon monde et le leur, à l'aller comme au retour. Mais ce devait rester un lieu de passage. La dernière fois que je l'ai quitté, c'était différent. Je n'allais pas retrouver Daria et la famille. Je ne rentrais pas chez moi. Je fuyais les bois. Je pars en montagne. Quelque chose cloche. Quelque chose d'essentiel. Lui, Il le sait, il le sent. Je le revois me donner la griffe au moment de partir. Tu sais que tu es déjà Matouka. Je l'entends me rappeler nos discussions pendant mes délires fiévreux et me mettre en garde contre l'esprit de l'ours. L'esprit qui me suit, qui m'attend, qui me connaît. Pourtant, il ne me retient pas. Il ne fait pas un geste pour m'empêcher de monter au volcan. C'est bien ce que Daria lui reproche. Qu'il sache, pour moi, pour l'ours, et qu'il ne fasse rien. Ou plutôt, qu'il m'ait tout dit. À moi qui, par défi, courais au-devant d'une initiation. Et qu'il faudrait l'intervention d'un miracle pour que j'y survive. Non, rien n'est de sa faute. Ce qu'il a fait, il a guidé mes pas pour que j'aille au-devant de mon rêve. Daria aussi a toujours su. Elle sait qui me visite quand je dors. Je lui raconte au petit matin les ours de la nuit. Elle écoute en silence. Elle compare mon corps musclé à celui de l'ours. Elle se demande qui de l'une ou de l'autre dort dans le terrier de son double. Mais Daria est une mère. Une femme qui connaît la douleur dans ses chairs, la vie et la mort. Et qui, plus que tout au monde, aspire à protéger ceux qu'elle aime et à leur épargner la souffrance. Mais ce n'est pas la mère qui trace un cercle autour de l'enfant qui grandit en lui disant « Toi, tu restes là ». Daria, elle aussi, sait voir entre les mondes. Pourtant, ce n'est pas elle qui confie l'enfant au monde extérieur pendant une lunaison pour qu'il tisse sous sa peau les relations qui feront de lui une femme ou un homme. Ça, c'est le rôle des pères. De jeter l'enfant au monde une deuxième fois. Moi, je n'ai plus de père depuis l'adolescence. Andri s'est quelque part saisi de cette place laissée vacante. Il a endossé le rôle de celui qui initie en poussant l'enfant hors de la douceur et de l'évidence intra-utérine. L'aïole, c'est le chant de la danse circulaire. Croire au fauve va nous faire traverser la question des regards. Quand se croise le regard de l'infantile et celui du parental. Nous verrons quels sont les liens qui traversent les croyances quand ils se croisent. Le regard du bébé et de la mère. Comment les frontières entre les mondes implosent, y compris les limites physiques entre l'humanité et l'animalité, entre la vie et la mort. Pourquoi dans le noir du mental, les chants chamaniques sont nécessaires? Pourquoi il y a 176 500 ans, un petit groupe de Néandertaliens est allé délimiter deux espaces dans l'espace de la grotte, un grand cercle et un petit cercle? Est-ce bien le propre des femmes pour faire face au pouvoir de la mère des origines?
Se pensi che gli anni non andan a finire, bisogna morire, bisogna morire.